Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Le royaume des cieux selon l'évangile de Matthieu. Voici le thème actuel de nos émissions. Et lors de cette quatrième série consacrée à ce thème, nous nous penchons sur le sujet de la mission et du royaume des cieux. Colin est de retour parmi nous. Il nous aidera à mieux comprendre ce sujet. Colin, bonjour.
Bonjour Ian, et bonjour à tous. Au chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, nous apprenons que Jésus a choisi 12 de ses disciples. Il leur a confié la responsabilité d'être apôtres. Il avait l'intention de les envoyer en mission pour annoncer aux habitants des villes et des villages situés au nord d'Israël le message que le royaume des cieux est proche. Pour les préparer à cette mission bien particulière, Jésus leur a donné quelques instructions. La dernière fois, nous avons commencé à étudier celle-ci et aujourd'hui, nous poursuivrons cette étude. Écoutons maintenant la suite des paroles de Jésus aux apôtres à cette occasion. Elle se trouve au chapitre 10 de Matthieu, des versets 16 à 25. Cédons la parole à notre lectrice.
Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs et on vous fera fouetter dans leur synagogue. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour leur apporter un témoignage, ainsi qu'aux nations païennes. Lorsqu'on vous traduira devant les autorités, ne vous inquiétez ni du contenu, ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera dans votre bouche. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Vraiment, je vous l'assure, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. Il suffit au disciple d'être comme celui qui l'enseigne, et au serviteur comme son maître. S'ils ont qualifié le maître de la maison de Belzébul, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison?
Merci. Colin, au début de cette lecture, Jésus fait allusion à 4 animaux différents. Les brebis et les loups, les serpents et les colombes. Il s'agit bien sûr d'illustrations. Mais que signifie-t-elle?
En résumé, Jésus prépare ses disciples aux dures réalités de la mission. Le simple fait d'annoncer que le royaume des cieux est proche, autrement dit, de proclamer que Jésus est roi et maître, allait mettre ses disciples en danger. Jésus avertit que toute participation à sa mission exposera le croyant à l'opposition et à la persécution. Jésus compare ces situations à celles de brebis qui se trouvent tout un coup entourées d'une meute de loups. Nous savons que lors d'un tel scénario, les brebis ne s'en sortiront pas indemnes. On comptera des morts et des blessés.
Ce sont des paroles difficiles.
C'est vrai, Ian, mais Jésus est honnête. Il ne voulait pas envoyer les apôtres en mission sans les avertir des dangers encourus. Loin de là. Il voulait plutôt bien les préparer à toute éventualité. Il est probable que les disciples de Jésus pensaient, en voyant les grandes foules rassemblées autour de lui, que tout irait bien lorsqu'ils partiraient en mission à leur tour, et que le royaume des cieux s'établirait sur la terre sans trop de difficultés. Il est aussi possible que des idées triomphalistes leur soient montées à la tête. Jésus dénonce une telle attitude. Il savait très bien que les élites religieuses et politiques s'opposeraient à lui. Il savait bien que ses autorités finiraient par le livrer à la crucifixion et également que ces mêmes autorités s'opposeraient, tôt ou tard, aux disciples qui témoigneraient en son nom.
Et l'histoire des 20 derniers siècles, qui se sont écoulés prouvent bien que Jésus avait raison.
C'est vrai, Yann. Après sa mort et sa résurrection, les apôtres ont proclamé que Jésus est Seigneur, qu'il est le Sauveur promis, le Sauveur universel, c'est-à-dire le Sauveur pour tous les peuples de la terre. Ces apôtres, ainsi que l'Église naissante, ont rapidement rencontré de l'opposition et de la persécution. Les autorités ont cherché à les faire taire, mais sans y parvenir. Par la suite, quelques croyants ont subi des périodes d'emprisonnement. D'autres ont été mis à mort, comme Étienne et Jacques, par exemple. Et puis, à travers les siècles, tout au long de l'histoire, cette persécution des chrétiens a continué. S'il est vrai qu'il existe de nombreux pays où le chrétien peut vivre en paix, où il risque peu, dans d'autres zones, des dangers sont réels et le chrétien risque la discrimination économique, des injustices, l'emprisonnement, la violence et même la mort. Actuellement, en Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient, dans quelques pays d'Asie, il existe des secteurs difficiles où la persécution est une triste réalité à laquelle l'Église mondiale doit faire face et préparer les croyants. Lorsque nous répondons à l'appel de Jésus et nous nous engageons à participer à la mission qu'il confie à l'Église, il faut être conscient que cette tâche est difficile, elle présentera des obstacles et nous risquerons de rencontrer de l'opposition d'une manière ou d'une autre.
Merci, Colin. Oui, Jésus nous envoie comme des brebis au milieu de loups. Il ajoute qu'il est nécessaire que nous soyons prudents comme les serpents et pur comme les colombes. Que signifient ces images?
Étant donné que nous sommes comme des brebis au milieu des loups, Jésus nous donne quelques conseils. Abordons d'abord cette illustration qui nous encourage à être prudents comme des serpents. Il faut l'avouer, dans la Bible, les serpents ne jouissent pas d'une bonne réputation, car après tout, c'est un serpent qui a séduit Ève, la poussant à manger le fruit interdit en Genèse chapitre 3. Et puis, dans la vie, les serpents sont des créatures que nous craignons.
Pourquoi Jésus cite-t-il alors l'exemple du serpent? Quelle qualité veut-il mettre en avant?
Le mot « prudence » évoque la capacité du serpent à se protéger du danger. On pourrait aussi dire que les serpents sont rusés. Le mot grec, traduit par « prudence », a aussi cette signification. Un serpent emploie la ruse surtout pour se préserver des dangers qui l'entourent, mais aussi pour chasser sa proie.
Mais quelle leçon retenir pour le disciple qui participe à la mission de Jésus-Christ?
D'abord, nous sommes appelés à bien réfléchir et à user de sagesse pour minimiser ou écarter les dangers associés à la mission. Nous devons annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec courage, certes. Nous ne devons pas cacher la lumière sous une lampe. Cependant, ayant dit cela, il est légitime de vouloir se protéger des dangers réels. Il est légitime d'adapter notre façon d'agir, d'annoncer Christ en fonction des circonstances que nous rencontrons. Par exemple, Jésus dit dans ce texte que si nous sommes persécutés dans une ville, il est légitime de la quitter pour chercher refuge ailleurs. Il est sous-entendu toutefois que nous annoncerons Christ partout où nous irons. D'ailleurs, en lisant les Actes des apôtres, nous apprenons que les événements se sont bien déroulés ainsi. De nombreux chrétiens ont quitté les endroits où la persécution faisait rage, et là où ils sont arrivés, ils ont établi de nouvelles églises. En bref, nous sommes appelés à user de sagesse, à réfléchir à la meilleure manière de faire avancer le royaume des cieux dans les circonstances qui sont les nôtres. Nous sommes appelés également à trouver un juste équilibre entre le courage d'annoncer Christ dans les situations hostiles et la prudence de se protéger du danger. Oui, nous devons proclamer la bonne nouvelle, mais si cette proclamation risque d'engendrer une réaction violente et des injustices, alors là, il vaut mieux bien réfléchir avant d'agir ou de parler.
Merci pour ces remarques intéressantes. Abordons maintenant les paroles pures comme des colombes.
Le mot pur peut aussi être traduit par le mot innocent ou alors sans méchanceté. Après avoir parlé de la ruse du serpent, Jésus se devait de préciser que nous ne devons pas employer la ruse à des fins mauvaises comme des serpents. Devant l'épreuve douloureuse de la persécution, nous devons rester innocents et purs, c'est-à-dire sans méchanceté. Autrement dit, nous ne devons pas combattre le mal par le mal, mais plutôt par le bien, en ayant recours à l'amour. Nous ne devons pas tomber dans des cercles vicieux de haine et de violence. Nous devons réfléchir et user de sagesse, non pas pour exercer une vengeance, mais pour favoriser la paix, la sécurité et le bien-être de tous. De plus, si nous sommes purs et innocents, ceux qui s'opposent à nous ne pourront pas trouver de prétexte légitime pour nous accuser et nous conduire devant les tribunaux, ce qui malheureusement n'empêchera pas certains d'accuser des chrétiens par des déclarations fausses, comme les pharisiens l'ont fait afin de faire condamner Jésus à la peine de la crucifixion. En bref, la mission du royaume des cieux n'est pas une guerre que nous menons, semblable à des conflits qui existent dans le monde, non. Nous participons à la mission du royaume avec la pureté et l'innocence des colombes, sans méchanceté, motivés par l'amour et agissant avec amour.
Merci, Colin. Nous avons parlé des quatre animaux cités au début du texte biblique et nous avons beaucoup appris de vos réflexions pertinentes. J'ai d'autres questions sur ce texte, mais nous n'avons pas le temps de les aborder aujourd'hui.
Il y a effectivement d'autres leçons très importantes qu'il faut retenir. Je viendrai la prochaine fois et nous en discuterons à ce moment-là. En attendant, je dis au revoir à tous.
Merci Colin et à bientôt.
À présent, je vais conclure notre émission par une courte prière. Seigneur Jésus, nous voulons prier aujourd'hui, surtout pour tes enfants qui vivent dans des régions du monde où le risque de persécution est réel. Nous prions surtout afin que chacun te reste fidèle et que tu fortifies leur foi au sein de l'épreuve. Nous te prions, Seigneur Jésus, afin que tu leur donnes du courage par ton esprit, le courage de parler de Jésus malgré les risques, le courage d'être de bons témoins en parole et en geste. Nous te prions également de leur donner de la sagesse pour savoir quand il faut faire preuve de courage et quand il faut faire preuve de prudence, pour discerner comment être de bons témoins fidèles dans leurs propres circonstances. Et nous prions pour qu'ils soient comme des colombes, purs et innocents, sans méchanceté. Nous te prions, Seigneur, de leur donner le courage et la sagesse de dire non à tout acte de vengeance et d'agir toujours par amour et en faisant du bien. Seigneur Jésus, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos cœurs et dans nos vies, comme au ciel. Amen. C'est ainsi que notre émission se termine. Je vous encourage à nous rejoindre la prochaine fois pour en apprendre plus sur la mission que Jésus confie à l'Église. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.